À présent, la minute écho avec Nathalie Barge.
La foire économique transfrontalière de l'Afrique centrale se clôturera demain après 10 jours d'activité à Kiyé aussi dans le sud du Cameroun, à l'intersection avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Booster les échanges intra-régionaux pour la paix, le développement socio-économique et culturel. Tel est le développement de la 12e édition de la FOTRAC organisée par le réseau des femmes actives de l'Afrique centrale. Le Nigeria a lancé des formations pour les agriculteurs via la plateforme d'apprentissage Nirsal Farmers Business School. Ces formations sont disponibles dans plusieurs langues et accessibles hors connexion Internet. L'objectif est de renforcer les capacités entrepreneuriales et d'améliorer l'accès au financement. La plateforme aidera les agriculteurs à prendre des décisions en temps réel en fournissant des informations essentielles. L'essence au plomb n'est plus utilisée dans aucun pays du monde, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, saluant une étape majeure qui permettra de sauver chaque année plus d'1 million de vies et d'économiser plus de 2 400 milliards de dollars. L'Algérie, dernier pays à utiliser ce carburant, a épuisé ses stocks, a déclaré ce lundi l'agence onusienne à Nairobi, au Kenya.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Des nouvelles de l'Afro-Basket qui se déroule à Kigali au Rwanda pour commencer. L'Angola met l'Égypte de côté et retrouvera donc le Sénégal en quart de finale. Les Angolais, 11 fois champions d'Afrique, ont battu les Égyptiens 62-70 et feront désormais face aux redoutables Sénégalais qui ont validé hier leur billet pour les quarts. Les Lions de la balle au panier, annoncés favoris, l'ont confirmé en étant d'ailleurs la première équipe à inscrire 100 points et qualifiée au bout seulement de 2 matchs, ce qui fait naître des rêves de titre du côté de Dakar, comme nous le rapporte notre correspondant dans la capitale sénégalaise, Seydina Abagui.
L'équipe nationale de basketball masculine fait jusqu'ici un parcours impressionnant. Les Lions ont enchaîné 3 victoires consécutives contre l'Ouganda, le Sud-Soudan et le Cameroun. Les poulains de Boniface Ndong confirment ainsi tout le bien que les observateurs pensent d'eux. Une performance qui conforte l'équipe du Sénégal comme favori, nous dit Mamoudou Diop, un féru de la balle orange que nous avons rencontré au stade de Yoff à l'occasion du championnat de basketball catégorie des moins de 13 ans.
Tout d'abord,
l'équipe nationale du Sénégal de basket est très talentueuse. De jeunes joueurs ont été recrutés, une bonne chose qui apporte, il faut le dire, de la fraîcheur à l'équipe. On peut considérer le Sénégal comme prétendant du titre, mais il faut faire attention au Nigeria.
Avec à sa tête l'ancienne superstar du Sénégal et ancien joueur NBA, Boniface Ndong, l'équipe démontre une véritable force. Cependant, Alpha Diallo, amateur de basketball, estime que les Lions de la Teranga devront confirmer ses débuts prometteurs face à de gros calibres comme le Nigeria ou la Tunisie.
Il faut avoir l'honnêteté de dire que jusqu'ici, elles ne rencontrent que de petites équipes. Attendons de la voir jouer avec les ténors. À partir de là, elle pourra conforter sa place de favori. L'arrivée de Boniface vient à point nommé. Il a su concilier jeunesse et vétérans.
Cette remarque sur l'apport de Boniface Ndong est confirmée par Sekou Seydi, journaliste sportif présent à Kigali.
C'est toujours important d'avoir dans le staff des gens qui ont fait leur preuve, qui ont su mettre son costume d'entraîneur après avoir été un excellent joueur. Il y a un mix entre ceux qui ont évolué dans le haut niveau et quelqu'un qui n'a pas habillé. C'est lui qui avait l'équipe lors des fenêtres de novembre. Donc c'est plus facile quand même de faire passer le discours quand la personne qui vous parle a plus de vécu, plus de palmarès que vous.
Vainqueur de l'Afro-Basket 5 fois, finaliste à 6 reprises et 5 fois médaille de bronze, les Lions n'ont plus été champions depuis 1997. Seydina Abagui à Dakar pour VOA Afrique.
Autre équipe qualifiée directement pour les quarts de finale, la Côte d'Ivoire qui n'avait plus atteint ce niveau depuis 2013. Les éléphants premiers du groupe C, après avoir battu le Nigeria 77-68, affronteront le vainqueur du barrage entre le pays hôte, le Rwanda et la Guinée, qui joue ce soir. La Tunisie, tenante du titre qui a fini en tête du groupe B, sera opposée au vainqueur du match de barrage Kenya-Soudan du Sud. Et puis le Cap-Vert, premier du groupe A, jouera le dernier quart de finale face aux qualifiés du barrage Ouganda-Nigeria. Ces 2 derniers matchs auront lieu demain.
Page des sports signée, Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Lutte contre le coronavirus au Gabon. Le gouvernement qui redoute une troisième vague d'épidémie a lancé une campagne de vaccination itinérante à Libreville. Elle se tient dans les grands carrefours de la capitale gabonaise. Le but est de toucher la population encore indécise. Le reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obianze.
Pour cette campagne pilote, le gouvernement s'est offert les services des associations communautaires pour sensibiliser les populations sur l'importance de se faire vacciner. Steve Chinga, président de l'association Six Gabon.
Il faudrait que la population adhère à la campagne de vaccination afin que le Gabon retrouve sa stabilité d'avant.
Dans un pays où plus de la moitié de la population s'informe désormais via les réseaux sociaux très marqués par l'influence de fake news, l'opération de vaccination contre le Covid en cours à Libreville peine encore à mobiliser grand monde. Voix Abidine fait néanmoins partie de la centaine de candidats au vaccin présents ce matin sur le site du Carrefour Rio à Libreville.
Il ne faut pas suivre les intox des réseaux sociaux. C'est très important pour nous et pour la santé de tout le monde. Il faut que chacun vienne se faire vacciner. C'est très important. Parce que plus tard, ceux qui ne sont pas fait vacciner vont regretter plus tard. C'est plus important. Le gouvernement n'est pas pour nous demander de nous vacciner.
Entre le début de l'opération en mars dernier et mi-août, le comité national de vaccination indique que plus de 30 000 volontaires se sont présentés dans les différents sites pour recevoir le vaccin anti-Covid, dont 17 000 volontaires au total ayant reçu leur deuxième dose de vaccin. Des chiffres toujours pas assez convaincants pour dissuader les indécis comme Jean-Claude Mbombine.
Les Gabonais ont besoin d'être rassurés parce qu'ils sont sceptiques. Voilà. Et donc c'est au gouvernement de montrer le bon exemple. En administrant ce produit-là, ce vaccin-là, d'abord à eux qui sont au sommet de l'État.
Selon les autorités gabonaises, l'objectif recherché par la présente campagne est l'intensification de la vaccination communautaire conformément à la phase 4 du troisième axe stratégique du plan national de vaccination. Docteur Eulu Laïka est l'un des superviseurs de cette campagne de vaccination.
Le message que je porterai aujourd'hui à la population gabonaise, c'est que les sites de caravanes de vaccination sont des sites de proximité qui ont été mis en place pour faciliter la vaccination de tous les volontaires.
Ces derniers jours, le pays a enregistré 26 nouveaux cas positifs sur 5662 tests réalisés dans 7 des 9 provinces du pays. Le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon faisait état le 25 juin dernier d'un taux de positivité de 0,4%. Malgré cette tendance baissière, le gouvernement se dit prêt à durcir le dispositif sanitaire actuel pour sauver des vies. Libreville, Ismaël Obiancé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la fuite des cerveaux africains. Alors que le secteur de la santé est paralysé au Nigeria par une grève de plusieurs semaines, des centaines de médecins ont participé récemment à Abuja à un séminaire de recrutement organisé par l'Arabie Saoudite. Récemment, on évoquait cette réalité en Tunisie où les jeunes médecins aspirent à partir à cause des mauvaises conditions dans leur pays. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à retenir ces milliers de cadres qui quittent chaque année le continent où ils ont été formés? Nous allons en débattre ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En République démocratique du Congo, l'idée de rendre la vaccination obligatoire fait son petit bonhomme de chemin après la troisième vague de Covid-19. Le patron de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, Dr Jean-Jacques Mouyembe, a même donné son accord de principe, mais certains spécialistes ont de sérieuses réserves. Notre correspondant à RDC, Patrick Lupika, nous donne les détails sur une question qui a pris les allures d'un débat national en RDC.
L'option envisagée au printemps dernier se précise jour après jour. Vaccination obligatoire, c'est pour l'intérêt suprême de la nation, moyen très efficace pour garder en bonne santé les équipes médicales. Docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique national de la riposte Covid-19 RDC.
Dès le départ, nous avions dit que la vaccination est volontaire. Un infirmier qui refuse la vaccination et qui s'infecte, c'est tout à fait au début, et il va soigner les malades qui sont venus pour les palus, pour la fièvre typhoïde. Mais parce que cet infirmier-là, il est contaminé par la Covid, il va transmettre la maladie à ses malades. Donc le personnel médical est là pour soigner les malades et non pas pour transmettre le virus de Covid aux malades qui viennent pour d'autres pathologies. J'adhère à cette idée-là. de faire de la vaccination pour certains groupes une vaccination obligatoire. Et moi, j'en parle déjà avec mon personnel ici à l'INRB, puisque le personnel de l'INRB également est très exposé, d'abord avec la population et aussi par le travail qu'ils font au laboratoire. Ils sont exposés constamment. Et je pense que c'est l'occasion de demander que tout le monde à l'INRB soit vacciné. Et ceux qui ne seront pas vaccinés, à un moment donné, on dit, vous n'entrez pas en contact avec le patient ou bien dans les salles de conférence. Et nous arriverons à cela et c'est nécessaire.
Longtemps réticente, la population prend les choses en main, elle se fait vacciner. Les chiffres du programme élargi de vaccination PEV-RDC sont encourageants. Docteur Jean-Jacques Mouyembe-Tanfon, coordonnateur du secrétariat technique national de la réponse COVID-19-RDC.
Nous avons déjà vacciné plus de 3000 personnes. Et ça, c'est vraiment un bon signe. Et au total, donc, nous avons 80 045 personnes qui ont reçu les deux doses. Pour la deuxième dose, pas seulement à Kinshasa, mais même en province. Pour la COVID, l'Union, CDC Afrique, l'Union africaine, pense qu'avec 60% de la population africaine vaccinée, nous pouvons protéger les 40% qui restent.
Les autres types de vaccins arrivent en RDC début septembre pour élargir ces processus sur toute l'étendue du territoire national. Kinshasa, Patrick Lupika, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, une grosse coupure d'électricité frappe la capitale depuis 24 heures. Les consommateurs n'ont pas de solution, car depuis deux semaines, Brazzaville connaît une importante pénurie de carburant qui rend inutile les groupes électrogènes. La société de production d'électricité parle de chute d'un pylône sur la ligne de transport du courant. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Dès 7h du matin dimanche, plusieurs quartiers de la capitale n'avaient plus d'électricité. Mais c'est dans la soirée que toute la ville est plongée dans l'obscurité jusqu'à ce lundi après-midi. Les hommes d'affaires sont aux abois. Et là, Djibril Boupaka est le patron de patron, président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo.
Et c'est un crément cacagné dans les restaurants. Tout est maintenant bloqué en stand-by. Les entreprises industrielles, mais les grandes ménageries, rien ne marche. Les boulangeries, ça pose problème. Et cela fait que le secteur économique, secteur privé subit.
Les commerçants voient leurs affaires chuter en si peu de temps. Alphonse Ndongo, patron d'un restaurant, grève ses économies.
Et comme vous le savez, dans pratiquement toute la ville, il n'y a pas aussi de carburant pour pouvoir alimenter notre groupe électrogène. Tout cela parce que nous voudrions quand même garder l'essentiel de nos vivres dans une température tout à fait normale, mais aussi il faut accueillir nos clients. Donc c'est vraiment des dépenses inattendues, surtout en ces temps de crise.
De son côté, Patrick Mampouya, propriétaire d'un centre de formation en informatique où tout ne marche qu'avec de l'électricité, tente des solutions à sa façon.
Là où est situé mon centre de formation, dès que j'ai ouvert le groupe électrogène, tout le quartier est venu pour charger son téléphone, c'est vraiment du n'importe quoi. On se demande, le Congo veut se développer, avec quelle électricité on va monter ces entreprises-là? J'ai vu, il n'y a pas longtemps, le Premier ministre qui est parti chercher des entrepreneurs en France. Oui, mais avec quelle électricité on va travailler?
Dans les rues de Brazzaville, les usagers du courant électrique grincent les dents.
Et tout ce qui nous reste, c'est d'aller dans différents marchés. Il y a quand même ceux qui ont des groupes électrogènes. Et c'est auprès d'eux qu'on essaie de charger nos téléphones. Et il faut donner 200 francs, il faut donner 300 francs. Et donc c'est une situation très triste.
C'est difficile, c'est dur vivre comme ça sans électricité. Et donc du coup, mon téléphone, je n'ai pas pu le charger.
C'est vraiment invivable. Donc, pour rester connecté, j'étais contraint d'utiliser une énergie alternative. Donc, j'ai un power bank qui me permet de charger mon téléphone quand j'ai coupé l'électricité.
Officiellement, la société d'électricité explique qu'un pylône est tombé dans les environs de Pointe-Noire. Mais le problème peut également venir de la baisse des eaux qui impacte la production du courant électrique. Les Brazzavillois sont habitués aux coupures intempestives du courant. Mais cette fois-ci, la panne laisse pantois de nombreux usagers. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Alors que les évacuations et le retrait militaire des États-Unis touchent à leur fin en Afghanistan, les décisions du président Joe Biden font l'objet d'un examen minutieux. Michel Quinn rencontre des critiques et revient sur l'attaque perpétrée la semaine dernière à Kaboul et qui a entraîné la mort de plusieurs militaires américains et de civils afghans. Récit Jacques Aristide.
Le compte à rebours est lancé pour les évacuations d'Afghanistan, mais l'administration Biden maintient qu'elle continuera à travailler pour faire sortir du pays les citoyens américains et les alliés afghans, même après la date butoir du 31 août. Un haut responsable taliban a déclaré que les gens seraient autorisés à voyager à l'étranger à l'avenir. Dans l'émission This Week de la chaîne ABC, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que la communauté internationale y veillerait.
114 pays ont clairement indiqué qu'ils attendaient à ce que les talibans autorisent les voyages après le 31 août.
Hier, le président Joe Biden a rendu hommage aux 13 militaires américains tués dans un attentat suicide la semaine dernière à l'aéroport de Kaboul. Plus de 100 Afghans ont également péri. Le retrait américain d'Afghanistan allait être risqué et chaotique, d'après l'administration Biden. Elle souligne l'évacuation réussie par avion de plus de 100 000 personnes au cours des dernières semaines. Pour des détracteurs, le locataire de la Maison-Blanche a fait de nombreux faux pas dangereux. Le sénateur républicain Lindsey Graham, lors d'un entretien dans le programme Face the Nation de la chaîne CBS.
Le président Biden a dit qu'il voulait régler le problème afghan pour les futurs présidents. Il fait exactement le contraire. Pendant les 20 prochaines années, les présidents américains seront confrontés à cette catastrophe.
Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, affirme que d'après les services de renseignement, les groupes terroristes en Afghanistan ne disposent pas de capacités avancées pour mener des attaques à l'étranger. Mais la crainte est qu'ils pourraient les développer. Jake Sullivan, lors d'une interview dans Face the Nation de CBS.
Ce que nous avons prouvé au fil du temps dans d'autres pays, c'est que nous sommes capables d'éliminer la menace terroriste, y compris les capacités de complot externe, sans une grande présence permanente sur le terrain.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken indique que les États-Unis vont prêter une attention particulière à l'Afghanistan, mais n'auront pas de présence diplomatique dans le pays.
Nous allons devoir voir exactement ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir en termes de comportement des talibans et de la situation sécuritaire dans le pays.
Anthony Blinken ajoute qu'il restera à voir si les États-Unis retourneront un jour en Afghanistan, un pays qu'ils ont occupé pendant près de 20 ans.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Dion à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Restez branchés pour notre prochain bulletin d'information à 18h temps universel. Ainsi ainsi que pour Le Monde aujourd'hui à 18h30 et à 19h30 TU. Ne quittez pas l'écoute. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky and tell I'm short of breath. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Fill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah. But when the world put me on a pedestal, I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves, trying to act cool, upset by the jealousy. Lifting me up. Turn me down. Take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go.
Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. I don't do well with the drama. That we love in the night gave me life, baby. I can't explain it the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feels so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second.
levitate. When you come out of the water, I'm a believer, my heart is fleshy. Life is short with a temper, like Joe Pesci. They always come and sing your praises, your name is catchy. But they don't see you how I see you, Parley and Desi. Cross, queen, queen, Hesse, hit the jet ski. When they get messy, go lefty, like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespas, or rent a jet ski. I know the spot that got the best, we going next week. I wanna honor you. Rise groom, I'm my father's child. Honor when the son takes the first step, the father's proud. If you make it to the water, he apart the cloud. I know he made you a snack like Oscar Proud. Suffering to be so now, gotta clean it up. Formalize the union and communion he could trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believes in us.
Hold me. Feel so holy. Oh God!
Vous êtes croyant, animiste ou athée, VOAfrique vous accorde une tribune dans le dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manilakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOAfrique et VOAfrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.